Studio Kalangu, messieurs, dames, bonsoir. Bienvenue dans le journal de ce jeudi 12 septembre 2019. Nafis Adam Sirfou à la présentation. Au sommaire de ce journal, les migrants désirant entrer en Libye sont racketés au poste de contrôle de Madama au nord Niger à la frontière libyenne. Une situation dénoncée par un acteur de la société civile nigérienne. Des précisions dans quelques instants. Lancement hier de la commune rurale de Karigi-Bangou-Dosso de la phase pilote de l'enrôlement biométrique des électeurs par la commission électorale nationale indépendante à CENI. Le président de cette institution s'exprime dans ce journal. Nous vous faisons découvrir dans le magazine d'aujourd'hui le processus de couvaison des œufs avec des appareils utilisés par les aviculteurs. Au poste de contrôle de Madama au nord Niger à la frontière libyenne, le migrant en règle qui veut entrer en Libye paie 2000 francs CFA et celui sans carte d'identité est taxé à 5000 francs CFA. C'est ce qu'a dénoncé l'acteur de la société civile nigérienne Sanusi Mahaman à travers une lettre adressée à la Commission nationale des droits humains CNDH. Écoutons-le au micro de Asmana Shina.
Moi j'interviens dans la région d'Agadez. Nous avions reçu beaucoup de plaintes. Celui qui n'a pas de carte d'identité, il paye 5000 francs. Celui qui a une carte, il paye 2000 francs. Donc nous estimons que d'abord, c'est un problème de violation des droits humains que nous dénonçons. Et maintenant, on a dit que trop, c'est trop. Il faut que les institutions en charge de la promotion et du respect des droits humains prennent les dossiers en charge et que ce genre de pratiques cessent. Nous sommes dans un contexte où les autorités au niveau national, au niveau africain, sont en train de faire des efforts pour aller vers une intégration économique. Donc nous pensons que cette intégration passe d'abord par la libre circulation des personnes et des biens.
La semaine dernière s'est tenue à Agadez la deuxième rencontre inter-région sur la migration organisée par le Conseil régional d'Agadez qui regroupait aussi Zender et Tawa. Moutari Ousmane, président du Conseil régional de Zender et porte-parole de la rencontre, explique le fonctionnement du comité inter-région sur la migration au micro de Anissé Karim.
Nous avons élargi cette rencontre aux régions de Maradi, d'Osso et de Tillabéri parce que le phénomène migratoire qui constitue le thème central de notre rencontre ici, et c'est un phénomène fluctuant. Et chaque fois qu'il y a des réseaux qui sont connus, il y a changement dans la création de nouveaux itinéraires. Nous allons faire le point sur les expériences des différents observatoires de ces trois régions-là, de Zender, Tawa, Agadez. Ces observatoires-là, tout au long de l'année, travaillent à identifier les problèmes. D'abord, les données sur la migration qu'ils collectent. Ensuite, ils travaillent à chercher les causes, à analyser ces données-là. Et ils travaillent également à identifier les besoins et à prioriser ces besoins-là. Ce qui fait qu'on aboutit à des fiches de projet pour faire face aux défis de la migration. Ces observatoires vont faire le point sur ce qu'ils ont fait. On va échanger entre nous, puisque c'est l'objet de la rencontre. Et d'apprendre les expériences des différentes régions, de voir ce qui a bien marché, de voir ce qui n'a pas marché, qu'on apprenne les bonnes pratiques.
Hier vers midi, une jeune fille a été blessée au bras par balle dans l'enceinte du ministère des Finances à Niamey. Selon les témoins, la victime a été immédiatement transportée à l'hôpital et la provenance de la balle reste un mystère. Le témoignage recueilli aujourd'hui par Diallo Maria Makenda sur le lieu du fait incompris.
Moi, j'étais dans les locaux du ministère. Elles étaient deux. Elle et une vieille femme. La vieille femme était assise et elle, la fille, était debout. Personne ne peut dire de quel côté la balle est venue. Hein. C'est une balle perdue qui a frôlé la fille. La fille était dans la cour entre deux véhicules quand la balle l'a frôlée. Personne, je dis bien personne, ne peut indiquer la direction d'où est venue cette balle. Il n'y a que les éléments du jalonnement dans les parages. Et si ce sont les éléments du jalonnement qui ont tiré, et tout le monde le saura. Dieu seul sait d'où est venue cette balle. C'est aux environs de midi, au moment où le président passait. La circulation était interrompue. Oui, il n'était pas midi.
Je l'annonçais dans les titres, la Commission électorale nationale indépendante CENI a procédé hier dans la commune rurale de Kardjibongo à Dosso au lancement de la phase pilote de l'enrôlement biométrique des électeurs. Cette activité est une étape décisive de la progression du Niger vers la confection de la première liste électorale biométrique, a indiqué le président de la CENI, Maître Issa Kassouna, sur des propos recueillis par Aoussi Abdrahman.
La cérémonie de ce jour est une étape décisive dans le chemin de notre progression vers la confection de la première liste électorale biométrique du Niger. La technologie numérique, comprenant entre autres la biométrie, nous offre un champ technique et scientifique de formidables perspectives pour la transparence et la clarté d'un fichier électoral. Elle en assure la fiabilité et la sécurité. C'est pour cela qu'elle est aujourd'hui au cœur des systèmes électoraux et d'identification en Afrique et dans le monde. C'est aussi avec la claire conscience que la biométrie est un élément de sécurité et de confiance que la classe politique du Niger a souhaité son intégration dans le système électoral de notre pays.
La réorganisation du Conseil national du dialogue politique annoncée par le gouvernement du Niger en début de semaine est bien appréciée par la majorité au pouvoir. Selon Boubacar Sabo, membre du bureau exécutif du parti au pouvoir PND-Staraya, cela permettra de corriger les imperfections et limites observées de la fonction de cette organisation. Il est joint au téléphone par le studio Kalungu.
La PND créée pratiquement depuis 2003 ou 2004 a montré quelques limites et je crois qu'il s'agit de corriger ces imperfections et limites observées dans le fonctionnement du CNDP. Par exemple, une des modifications apportées est celle de confirmer la présence aux côtés du président du CNDP, du ministre chargé de l'Intérieur et du ministre de la Justice, parce que la plupart des temps au CNDP, nous discutons des questions institutionnelles, des discussions sur les lois électorales, les discussions sur les processus électoraux. Donc, ces deux acteurs, il était nécessaire qu'ils soient aux côtés du Premier ministre. Autre chose, dans les décrets, en fait, n'était pas fait mention expressément du groupe des non-affiliés. Et si vous vous rappelez, il y a eu une modification de la charte des partis politiques pour mettre en exergue ce troisième groupe qui est constitué des partis non-affiliés. Donc maintenant, au niveau, je crois, du décret, on va probablement intégrer ce groupe. Je pense que c'est une bonne chose pour la démocratie, pour la gouvernance des partis politiques au niveau de notre pays.
L'opposition, quant à elle, trouve la démarche pernicieuse et pense que la révision d'un tel décret, si besoin est, devrait impliquer toutes les forces politiques. Maman Sani Adamou, porte-parole du Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, FRDDR.
Le CNDP n'a pas été créé par le gouvernement. Le CNDP a été le fruit d'un processus d'échange entre l'opposition de l'époque et puis la majorité. Alors, c'était dans l'esprit que on pouvait prévenir les conflits dans nos régions en mettant l'accent sur la prévention des conflits politiques. Et à l'époque, on s'était dit que les conflits politiques, c'est essentiellement les conflits électoraux et qu'il y avait nécessité de définir un cadre qui permettrait à l'ensemble des partis politique de réaliser les échanges nécessaires qui pourront faire l'économie de l'usage de la violence. Alors, s'il y a nécessité de repenser CNDP, ça ne peut pas être comme ça le réflexe du gouvernement. Ça doit être quelque chose qui soit ressenti par tout le monde. Une telle démarche, nous la trouvons assez pernicieuse sous le prétexte de relecture. Une relecture devait être la relecture de l'ensemble des forces politiques, pas la relecture du gouvernement.
Pour les partis non affiliés, cette démarche du gouvernement n'a rien d'innovant. Placer une chaise supplémentaire à la table de séance aurait suffi, à déclarer Tahiru Gimba du parti non affilié modèle Maïkata.
C'est la seule innovation peut-être qu'il peut avoir apporté. Avant, il n'y avait pas une chaise réservée sur la table de séance qui dirige les travaux des non affiliés. Il y avait un président du CNDP qui est le premier ministre, le représentant de l'opposition et de la majorité, les deux qui l'encadraient. Ce soir, moi, le ministre de l'administration du territoire de l'intérieur, celui de la justice qui venait assister. Mais avant, il n'y avait aucun fauteuil prévu pour les non-affiliés. Ils sont dans la salle non-affiliés puisque c'est écrit le décret, premier décret. Donc peut-être c'est juste la chaise qu'il faut mettre. C'est tout, mais il n'y a rien qui, fondamentalement, je ne vois pas un changement notable ou qui permet une quelconque avancée.
Rencontre la semaine dernière à Malanville entre les maires de cette ville du Bénin, celui de Kamba du Nigeria et de Yelou au Niger. Il s'agit ici de développer la concertation et la coopération transfrontalière tout en initiant des projets intégrateurs entre les trois pays. Le maire de Malanville, Inoussa Dandakoy, est au micro de Fadel Alou.
Cet atelier est consacré à la consolidation de acquis au thème des concertations des territoires du Dendi, ce que nous appelons le Dendiganda. Ça veut dire depuis le point très à l'ouest dans la commune de Karimama au Bénin jusqu'à la hauteur de Ilo et la commune de Malanville et la République fédérale du Nigeria au niveau de Bagudo, plus aussi le sud de la région de Dosso jusqu'à l'ouest, plus le Nigeria au nord, Kandjiwa, et le Nigeria au centre, par rapport à la géographie du Dendiganda, nous nous retrouvons. Nous sommes en train de poursuivre une démarche, processus. Cette démarche processus consiste à consolider les relations séculaires qui existent entre tous ces peuples qui partagent une même culture, qui partagent des référents identitaires.
Studio Kalangu. Suivez les programmes du studio Kalangu
à Niamey
sur la radio alternative 99.4 MHz, sur la radio Amfani 100 MHz, sur la radio Scout 90.9 MHz, sur la radio Challenge 96.6 MHz.
Studio Kalangu.
Il est 18h11 dans le studio Kalangu. À présent, la partie magazine de cette édition. Les œufs sont normalement couvés par la poule avant qu'ils ne se transforment en poussins. Mais de nos jours, ce processus de couvaison se fait notamment chez les agriculteurs à travers des appareils appelés couveuses. Quelle est la démarche à suivre pour cette opération? Est-ce que tous les œufs peuvent devenir des poussins? Rahilat Ousmana s'est rendu au récent salon Sahel Niger tenu à Niamey pour rencontrer un spécialiste de l'élevage aviaire. On écoute Abdou du Ganaï, producteur avicole, au micro de Rahilat Soumana.
Comment se fait l'incubation des œufs artificiellement dans un incubateur?
Les œufs, avant de les mettre dans l'incubateur, il faut éliminer les œufs à bout pointu, à bout plat, les petits œufs et les gros œufs aussi, ce qu'on appelle les œufs à coquille fêlée. On ne garde que les œufs à un poids moyen de 45-50 grammes. Votre incubateur est déjà mis au préalable, 24 heures en marche. Aussi vos œufs, si vous les conservez au niveau du frigo, il faut les sortir 24 heures avant pour qu'il ait la température ambiante. Il y a une couche d'eau à l'intérieur de l'incubateur qui va servir de température humide et vous avez l'autre température 38 degrés, la température sèche.
Est-ce que les œufs sont laissés sur place jusqu'à l'éclosion?
Il y a des incubateurs qui sont automatiques, qui vont vous retourner vos œufs toutes les deux heures de temps ou quand c'est les incubateurs qui eux, n'ont pas d'automatisme, vous allez faire le retournement à la main, deux, trois fois par jour. À partir de l'âge de 7 à 10 jours dans l'incubateur, le premier acte, c'est le mirage. Vous allez sortir vos œufs. Dans l'incubateur, il y a des appareils lumineux que vous allez placer sur le gros bout des œufs et vous allez voir à travers la lumière de l'œuf.
Comment savoir que le processus est en bonne voie?
Si l'œuf est fécondé, vous avez ce qu'on appelle une toile d'araignée. C'est des vaisseaux sanguins autour d'un point qui, lui, c'est le futur poussin. Et il est dans le bon processus. Par contre, vous allez peut-être voir un œuf clair. Eh bien, cet œuf clair n'a pas été fécondé. Vous l'enlevez, vous pouvez le manger. Maintenant, l'incubation va continuer. Vous allez toujours surveiller votre température. Si c'est un œuf de poule à l'âge du 18e jour, vous allez faire un deuxième mirage. Et vous allez voir qu'il y a toujours ces vaisseaux sanguins. Mais au niveau du point, vous allez voir qu'il a grandi. On voit le poussin qui bouge.
À quel moment a lieu l'éclosion des poussins?
À partir du 20e jour, 21e jour, la majorité des poussins vont sortir. Vous les laissez 24 heures ou 48 heures dans l'incubateur pour qu'ils sèchent. Les poussins qui sont sortis de l'incubateur peuvent vivre 3 jours sans manger ni boire, sans aussi attraper une maladie. Il y a une maladie qui s'appelle la maladie de Marek. Dès que le poussin sort, on vous vaccine parce que c'est le seul virus qui s'installe à partir de 4 jours. Pour Kwatu, la maladie de Newcastle, pour la maladie de Gomboro et autres, si vous vaccinez avant les 4 jours-là, vous avez perdu votre argent parce que l'immunité existe.
Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Comment former les militants des partis politiques pour un usage utile des réseaux sociaux au Niger? C'est le thème du forum de ce soir et c'est avec Mokhtar Hamadou.